science alors ?
Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, New Jersey.
Encore impensable il y a quelques décennies, la navigation dans l'espace extraterrestre est à l'ordre du jour.
It is intelligence which is the ability to learn from experience, to plan ahead.
La question se pose, quelle sera la machine parlante de l'avenir ?
Bonsoir, vous êtes sur Radio Campus 93.3 et vous écoutez Science Alors, la seule émission radio qui propose de faire dialoguer des scientifiques venus de tous horizons, des sciences du vivant aux sciences sociales, en passant par les maths et la physique. Et aujourd'hui, nous allons demander à nos invités si le progrès est une idée rétrograde. Un progrès ininterrompu et irrésistible avait véritablement en ce temps-là la force d'une religion, écrivait Stefan Zweig dans Le Monde d'hier, en évoquant l'Europe du tout début du XXe siècle. On croyait déjà plus en ce progrès qu'en la Bible, et cet évangile semblait irréfutablement démontré chaque jour par les nouveaux miracles de la science et de la technique. Ce siècle se chauffait complaisamment au soleil de ses réussites et ne considérait la fin d'une décennie que comme le prélude à une autre, meilleure encore. Tiens, tiens. Le Monde d'hier est le dernier livre de Stefan Zweig. Il l'écrivit en exil en 1941, à l'heure déjà où cet espoir de progrès avait été pulvérisé par les drames que l'on sait. Et on ne peut s'empêcher de penser, en le lisant, à ce que dira Camus, 4 ans plus tard, au lendemain du bombardement atomique sur Hiroshima. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Une réflexion qui, avec le recul historique, nous paraît visionnaire. Nous qui avons connu depuis Tchernobyl et Fukushima, la crise de la vache folle et l'accélération des réchauffements climatiques, les catastrophes sociales et environnementales de tous ordres liées à la dynamique d'expansion capitaliste, qui font dire à certains aujourd'hui que l'urgence serait plutôt à la décroissance. Bref, un siècle après le monde d'hier, nous savons évidemment que les innovations scientifiques peuvent être mises au service de causes mortifères. Et qu'il est, pour la raison, également stimulant de développer un algorithme de mort qu'un projet de vie, comme le rappelait l'historien Johan Chapoutot dans un article récent. Alors, le désenchantement du monde aurait-il signé l'arrêt de mort du progrès, au point d'en faire aujourd'hui une idée rétrograde ? Et d'abord, cette idée de progrès, que signifie-t-elle pour les scientifiques qui travaillent en 2012 ? Est-ce une naïve certitude mise au service de la course à la compétitivité dans un système libéral ? Est-ce une religion qui s'est abîmé dans les tragédies du XXe siècle ? Est-ce une manière de donner du sens au temps ? Ou est-ce une projection qui donne aux scientifiques l'occasion de s'interroger sur la valeur de ce qu'ils produisent ? Valeur pour l'humanité présente et à venir, à condition bien sûr qu'ils ne fassent pas une science purement instrumentale.
Pour en parler, nous serons en compagnie de Laurent Gerbeau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef du pôle de santé publique au CHU de Clermont-Ferrand, également directeur du service de santé universitaire du PRES de Clermont-Université, et vous avez des activités en recherche et enseignement sur la santé publique.
C'est cela.
Nous aurons également au téléphone l'historienne Sophie Vaniche, spécialiste de la Révolution française, directrice de recherche au CNRS et rattachée à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain. Mais pour lancer la discussion, Jean-Marie et Cécile, vous êtes allés interviewer l'historien Pierre Cornu.
Pierre Cornu est donc historien et maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Il est rattaché au laboratoire d'études rurales de Lyon et il s'intéresse à l'approche pluridisciplinaire de l'objet rural. Et en fait, dans ses recherches, il étudie des scientifiques au travail. Alors on l'écoute. Alors Pierre Cornu, quand on est historien, quel regard est-ce qu'on porte sur cette idée de progrès qui postule quand même un temps orienté, un temps finalement anhistorique? Qu'est-ce qu'on en fait de cette idée de progrès?
Cette idée de progrès, l'historien, il la trouve dans ses sources, en tout cas l'historien du monde contemporain, il voit ce mot surgir des sources dans les discours, dans les approches des acteurs, et donc son réflexe d'historien, ça n'est pas de se dire il y a ou il n'y a pas de progrès, c'est de se dire les sources en parlent, donc c'est intéressant. À partir de là, effectivement, l'historien ne peut pas éluder la question de savoir si les acteurs perçoivent une réalité ou s'ils se représentent cette réalité, mais on rentre par la source, par le discours des acteurs.
On pourrait se poser la question, puisque en fait la plupart des acteurs que vous avez, que vous côtoyez ou que vous étudiez, disons en tant que fonctionnaires, on leur a confié une mission, et pour autant eux-mêmes ont des convictions qui peut-être vont à l'encontre sur cette question de progrès justement. Comment, si vous avez déjà étudié ça, comment ils le ressentent, cette contradiction peut-être entre ce qu'on leur a confié comme tâche et ce qu'eux-mêmes ont comme conviction personnelle ?
Alors sur ce sujet, je crois que c'est justement comme ça que je peux expliquer pourquoi je suis parti faire des recherches sur l'Océanie, qui n'est pas le terrain le plus facile pour un chercheur clermontois. C'est justement pour échapper à l'idée que le chercheur serait forcément un fonctionnaire, un agent de la puissance publique. Quand on étudie le monde britannique, les élites ne sont pas liées à l'appareil d'État. Ces scientifiques britanniques qui sont inscrits dans les schèmes de l'évolutionnisme darwinien, ils ne travaillent pas pour la puissance publique, même pas pour la couronne. Ils ont, en fonction de leur appartenance à une élite globalisée déjà, un discours sur l'œuvre du temps, un discours de justification de leur emprise sur le monde, qui se construit en dehors d'une référence, encore une fois, à la puissance publique. Mais je pourrais développer un autre exemple qui, cette fois-ci, revient sur le champ français, mais beaucoup plus tardif. Quand on prend l'exemple de la science agronomique qui a œuvré à la révolution silencieuse, c'est-à-dire à la modernisation à marche forcée de l'agriculture française dans les années 50-60. Ces agronomes, pour le coup, avaient très nettement conscience d'être des acteurs de ce qu'ils appellent le train du progrès, d'être des agents qui cherchaient à faire rentrer le progrès dans le développement du monde rural et agricole. Mais rien n'est simple. À la fois, au début de la période, la plupart de ces chercheurs, scientifiques, ingénieurs qui font de la recherche finalisée, qui font du conseil, qui cherchent à développer de bonnes pratiques, à développer de nouvelles semences, de nouvelles variétés, ils sont naïfs et enthousiastes au début. Ce sont de jeunes gens. Et puis, ils découvrent petit à petit, parce qu'ils sont sur le terrain, parce qu'ils observent les acteurs, parce qu'ils observent les processus, parce qu'ils voient les vaches changer, parce qu'ils voient les champs de blé changer. Eh bien, soit ils vont valider ce qu'ils ont réalisé, soit ils vont avoir, comme d'autres, des moments d'inquiétude, d'angoisse, de remise en cause et basculer dans d'autres discours. Et effectivement, ce qui est assez fascinant et compliqué dans l'histoire récente, ce que je situerai dans les années 1970-1980, c'est un moment où on observe une dissociation entre le schéma de la rationalisation, celui du progrès et l'idée de construction de valeur. Et on a toute une série d'acteurs du champ scientifique qui pensaient jusque-là que tout était unifié, qu'il y avait une seule histoire, un seul récit, qu'il était évolutionniste, et que tout allait ensemble, la technique, la science, la vie sociale, la politique, même la spiritualité, qu'il y avait un courant dominant, et que ça pouvait s'appeler le progrès avec un P majuscule. Et puis, l'idée de l'unité de ce grand récit se brise petit à petit, il y a des signaux qui alertent des individus, soit des scientifiques, soit des non-scientifiques, mais les scientifiques, ce qui les distingue, c'est qu'ils sont en travail permanent sur un objet, qu'ils ne peuvent pas s'échapper du travail quotidien sur cet objet, et ce travail les travaille eux aussi. Et quand ils sont sur un objet en crise, comme la question agricole, et qu'ils voient bien que l'impact du productivisme, c'est de détruire la biodiversité, même si on n'appelle pas encore comme ça à l'époque, c'est de détruire des ressources humaines, c'est de détruire de la diversité des productions, etc., eh bien, ils sont amenés à se poser des questions, et donc à remettre en cause leur propre foi dans l'idée de progrès avec un P majuscule.
Est-ce que, à partir de vos études, il vous arrive de faire des parallèles avec la situation présente ?
Je me définirais comme un chercheur qui est conscient de baigner dans une vie sociale complexe, en crise, qui voit surgir des questionnements confus dans cette vie sociale, qui essaie de les traduire en termes scientifiques. Et donc, ce que je fais de ce travail, où j'essaie d'élucider quels sont les questionnements de mes contemporains, et les miens aussi, parce que je fais partie de ce monde, comme les autres, c'est d'essayer de les poser en faisant un pas de côté ou un retour sur le passé. Mon métier d'historien, c'est de me saisir de ces questionnements, de cette pensée qui surgit de la crise, et d'essayer de considérer qu'il y a peut-être eu d'autres crises similaires, que ce n'est pas la première fois que le monde moderne est en crise et en contradiction avec lui-même, et que l'idée de progrès n'était pas évidente il y a 30, 40 ou 100 ans, et que peut-être il y a eu d'autres crises similaires où il est intéressant de voir ce que d'autres chercheurs de sciences sociales, de sciences de la vie, ont pensé du travail, de la modernité, et ont pensé de l'œuvre du progrès sur le monde, que ce soit sur l'humain ou sur les non-humains. Je ne suis pas le seul à faire ce genre de travail. Je pense qu'il faut prendre conscience de ce que toutes les sciences sont aujourd'hui en remise en cause de leur régime de discours sur le monde. Et on a un certain nombre d'auteurs, de penseurs, de vigiles qui ont commencé à réfléchir à ces questions. Quelqu'un comme Philippe Descola le fait pour le discours des sciences de l'homme, de l'anthropologie, mais il faut élargir. Et je pense qu'aujourd'hui se pose la question de la réunification de l'approche scientifique entre les sciences de la vie et les sciences sociales pour penser justement qu'est-ce que c'est que cette crise du grand partage qu'on ramène aux Lumières, dont on pensait qu'il était fondateur du progrès et dont on se rend compte aujourd'hui qu'il crée toutes sortes de problèmes et de choses qu'on n'arrive pas à saisir et à maîtriser.
Voilà, donc c'était Pierre Cornu que nous avions interviewé avec Jean-Marie. Alors, nous avons en ligne, si tout se passe bien, l'historienne Sophie Vanisch. Bonsoir Sophie Vanisch.
Bonsoir.
Bien, alors Sophie Vanisch, si vous avez entendu ce portrait de l'historien brossé par Pierre Cornu, qui fait donc un pas de côté pour élucider les questionnements des acteurs qu'il étudie sur cette question du progrès, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'il vient de dire ?
Oui, tout à fait. Je trouve très intéressant de... Moi, j'ai tendance à travailler sur le politique et sur les enjeux qui sont culturels et politiques. Et je ne suis jamais allée voir de très près du côté des sciences dures et de l'histoire des sciences dures. Et je trouve extrêmement intéressant le fait de travailler sur l'articulation et sur la discontinuité des deux objets et comment l'incertitude sur les résultats de la recherche scientifique dure peut produire en retour cette crise de la foi dans le progrès avec un grand P. Et je trouve que c'est effectivement quelque chose d'extrêmement intéressant parce que les historiens qui travaillent dans une conception du temps discontinue sont dans la même logique et je pense qu'effectivement il y a beaucoup de points communs entre ce qu'a l'air de faire Pierre Cornu et ce qu'on essaye de faire dans l'équipe qu'on vient de créer qui s'appelle Transformation radicale des mondes contemporains, qui cherche à saisir dans l'histoire ce qui permet d'éclairer en termes de laboratoire les crises qu'on vit aujourd'hui, non pas en termes généalogiques, mais en termes de laboratoire, de comparaison.
Alors justement,
c'est très proche.
Bien, alors justement, si on prend comme exemple le laboratoire révolutionnaire, puisque vous êtes spécialiste de la Révolution française, comment est-ce que les acteurs de cette époque pensaient le progrès, donc cette idée des Lumières, qu'est-ce qu'ils mettaient derrière ?
Alors la question du progrès et les progrès infinis à la manière de Condorcet ou des progrès plus exactement, c'est de la manière de Robespierre ou d'autres, c'est l'idée qu'il y a un changement temporel et le fait que le régime d'historicité a changé, c'est-à-dire que les expériences deviennent caduques et l'horizon d'attente est démesuré, et du coup, il y a une espérance extrêmement forte. Mais cette espérance extrêmement forte, elle est immédiatement remise en question par l'événement révolutionnaire lui-même. Et on affirme que tout doit changer dans l'ordre social et politique, comme les choses ont changé dans l'ordre technique ou scientifique. Mais on se rend compte que voilà, ça bouge beaucoup moins vite et qu'il y a des résistances beaucoup plus fortes dans cet ordre moral et politique qu'on ne le pensait. Et du coup, on a aussi une conscience aiguë du risque de l'échec, de l'incertitude, je pense, quelqu'un comme Saint-Just qui dit « on a beaucoup parlé de la hauteur de la révolution », ce qui est la hauteur, elle est liée justement à cette espérance du progrès. Et il affirme « il fut des peuples libres qui tombèrent de plus haut », et donc il y a quand même aussi cet imaginaire de la chute et de l'impossible.
Alors, si on essaye de faire un retour vers le présent, vous parliez du risque de l'échec, de l'incertitude qui est déjà présente donc, chez les révolutionnaires. Aujourd'hui, on a l'impression d'un reflux de cette idée de progrès et justement d'un temps d'incertitude qui est extrêmement anxiogène. Est-ce que vous pensez qu'on est dans un temps justement de panne des horizons d'attente ?
Non, je ne crois pas du tout qu'on soit dans une panne des horizons d'attente. Je pense qu'il y a, au contraire, il y a une concomitance de l'incertitude et du pessimisme, mais un pessimisme actif, à la manière dont pouvait le présenter Walter Benjamin, et d'un désir beaucoup plus fort de ramener la foi en l'impossible. C'est-à-dire qu'à mon sens, toutes les demandes d'éthos démocratiques qui ont surgi depuis les révolutions arabes, le mouvement des indignés, les Occupy, des partis un peu singuliers comme le parti pirate, sont au contraire l'affirmation qu'il y a la nécessité de retrouver l'utopie, et donc de retrouver un futur, de retrouver la nécessité de penser à un monde tout autre. Mais en même temps, cette demande-là, elle n'est pas articulée à un optimisme béat sur le présent. Au contraire, elle ne peut s'articuler qu'à la conscience de ce qui ne va pas du tout dans le présent.
D'accord.
Donc,
juste
une logique sur de conscience.
Sur cette question-là, je voulais justement interroger Laurent, qui est aussi sur le plateau avec nous. Au sujet de cette question, vous avez parlé de risque et d'incertitude. Est-ce que c'est quelque chose qui, vous qui vous intéressez à la question santé publique, interfère avec vos préoccupations?
Oui, bien entendu. Alors, je voudrais saluer Sophie Vianich qui est à distance pour dire aussi que la période révolutionnaire, elle est intéressante dans le domaine de la santé publique avec à la fois des phénomènes pré-révolutionnaires comme le procès à l'Hôtel Dieu de Paris en 1788 qui va instaurer le pouvoir médical à l'hôpital sur le pouvoir religieux ou tous les débats autour de la vaccination entre 1802 et 1806 en France en période un peu post-révolutionnaire. Et on a cette espèce d'idée, on va lutter contre l'obscurantisme, y compris dans le domaine de la santé, même si les révolutionnaires ratent complètement la question de la santé, puisqu'ils suppriment le budget des hôpitaux, ils créent juste un comité des indigents et ils ne se posent pas tellement la question de la santé. On est dans une période, donc on essaye d'avoir des certitudes et on se dit, l'arrivée des Lumières va réduire l'obscurité, l'obscurantisme, et on en saura plus. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au contraire, l'acquisition de savoir, qui est un peu liée à cette idée de lumière, on sait plus de choses, on a éclairé plus de domaines, va au contraire créer beaucoup d'incertitudes, beaucoup de données, et par rapport à une façon très déterminée de voir l'avenir, très déterministe, on est peut-être dans des périodes où on est dans des choix de possibles et de souhaitables qui sont beaucoup plus importants qu'auparavant, en tout cas techniquement, tel qu'on pouvait poser les questions.
Une réaction peut-être, Sophie Vianich?
Sur la Révolution française, oui, bonjour aussi.
Bonjour.
Il me semble qu'on ne peut pas parler de la Révolution française en général, parce qu'entre la déclaration de 1793, la déclaration des droits de 1793, où on fait de l'assistance un droit créance et une dette sacrée de la société, et le moment que vous semblez évoquer, c'est pas le même projet révolutionnaire qui est à l'œuvre. Et je pense que c'est un peu comme pour l'éducation publique. La chose manquée, elle est manquée, dans un second temps, quand on abandonne cette déclaration des droits et qu'il n'y a pas eu le temps pour lui donner, en fait, une forme d'existence réelle. Mais les préoccupations des révolutionnaires au moment où ils pensent en termes de dette sacrée sur cette question de la santé, de l'assistance, de l'indigence, enfin tout ce qui correspondait à l'hôpital, que ce soit l'hôpital général ou des lieux réellement de soins, c'est quand même effectivement de faire en sorte qu'il y ait une capacité à en faire quelque chose de public.
Alors, vous, Sophie Vianich, qui êtes aussi une scientifique, qui est un agent de, voilà, qui participait à cette recherche, comment est-ce que vous vous situez, vous, par rapport à cette projection? Est-ce que à cette projection peut-être utopique, est-ce que vous pensez que la science que vous produisez, le savoir que vous produisez peut participer à une quelconque perspective?
Alors, je pense qu'on est nécessairement, je crois, dans une logique où on pense que c'est quand même utile. Je ne crois pas qu'on puisse être dans une pure contemplation du savoir. En tout cas, c'est pas mon cas. Mais après, on est quand même très modeste dans le contexte actuel, qui est quand même pas un contexte d'une grande porosité entre les savoirs et la société. On est assez modeste et on est obligé de fabriquer des institutions qui permettent cette porosité. Ça ne se fait pas spontanément. On passe pas du laboratoire, de recherche CNRS à la société d'une manière un peu globale ou comme discours social qui circulerait d'une manière simple aujourd'hui, surtout si on tient un discours critique. Mmh. Et donc, il faut trouver des lieux, trouver des manières de faire pour que ce passage se fasse. L'émission que vous faites fait partie de ces lieux. Et donc, il y a quelque chose qui serait de l'ordre de la publicisation de la recherche sur un mode qui serait à l'articulation du savoir et du politique. Et je pense que c'est un peu le cas de toutes sortes de lieux de diffusion des savoirs, que ce soit dans le cadre d'universités populaires, de cafés savants, finalement de lieux qui ressemblent un peu à la sociabilité politique et savante du XVIIIe siècle, mais avec quelque chose qui est très discontinu dans la société.
Vous voulez dire, en fait...
C'est pas facile, mais l'objectif, c'est quand même de produire un rétroviseur critique, et un peu à la manière dont en parlait Pierre Cornu, d'affirmer, oui, il s'est passé des choses analogues dans l'histoire qui permettent de pouvoir ouvrir les questions sur un mode plus aisé. Plus aisé. Et c'est un peu ce que souhaitait également Nicole Laureau quand elle faisait l'éloge de l'anachronisme. Je pense que oui, on pense que c'est utile d'ouvrir des laboratoires du passé pour ramener quelque chose vers le présent. Après, que le présent soit capable de le recevoir facilement, je ne crois pas.
Mais en fait, c'est intéressant parce que tous ces lieux dont vous avez parlé, c'est des lieux en fait, qui sont en dehors des institutions académiques.
Oui, mais en même temps qui sont à travers des individus qui les peuplent, qui sont quand même articulés au savoir académique. C'est-à-dire que voilà, il faut trouver les modes de capillarité entre le savoir académique et le savoir social.
Laurent, vous aussi, vous avez ce sentiment qu'il y a une barrière à franchir qui est parfois délicate entre le laboratoire et puis la place publique?
Oui, je sais, c'est toujours difficile de tirer des très grandes généralités comme ça. Moi, je suis dans un domaine qui est la santé publique, qui est l'un des domaines où il y a le plus de discours, et le plus de discours non fondés sur le minimum de connaissances de ce qu'est la santé publique et le minimum de raisonnement. Il y a deux domaines qui sont comme ça, c'est la toxicomanie et la santé publique. Tout le monde peut avoir une parole, beaucoup de gens ont des paroles, que ce soit sur la façon de prendre en charge les toxicomanies, que ce soit sur la résolution des problèmes de santé publique, et peu de ces paroles sont fondées sur des éléments de savoir que l'on possède, parce que heureusement, on possède des éléments de savoir. Enfin, on prend l'histoire des salles de shoot et on regarde comment cette question évolue, repart en arrière, etc. On prend les politiques de prohibition et on regarde pourquoi ces politiques de prohibition échouent ou réussissent, et on voit bien à chaque fois que le discours qui est adressé dans le domaine de la santé publique est un discours qui est relativement peu fondé. Après, sur la question de la transmission et la question de la passation, je crois qu'il est important qu'il y ait une transmission et une passation auprès des gens, auprès du public, auprès de la société en tout cas, auprès des gens qui veulent se renseigner et qui veulent savoir. Je pense qu'il est aussi extrêmement important qu'il y ait une transmission auprès des élites. Et le problème que l'on a, nous, en santé publique, est la façon dont les élites construisent une représentation du champ qu'est la santé publique.
Mais alors justement, dans votre domaine, la santé publique, bon, mais même dans le domaine de l'histoire, là vous parliez de la transmission aux élites, bon, finalement c'est peut-être la plus évidente. Est-ce que ce ne sont pas des questions qui sont quand même des questions cardinales et dont les citoyens doivent se ressaisir ?
Bien sûr que les citoyens doivent s'en saisir, pas ressaisir, supposer qu'ils s'en soient saisis. Bien sûr qu'ils doivent s'en saisir. Le problème, c'est que le saisissement est quand même capté par une technostructure dans tous les pays développés. Et cette technostructure, c'est malgré tout elle qui joue un rôle important dans la prise de décision.
Alors, Sophie Vanich, si vous êtes encore là, est-ce que pour les révolutionnaires, cette idée, est-ce qu'ils ont réfléchi justement à la façon dont, disons, la souveraineté pouvait s'emparer de cette question de l'utilisation du savoir, des innovations? Est-ce que c'est une question qui les a intéressés?
C'est une question qui les intéresse à différents moments pour différentes raisons. Alors, sur la question de l'innovation, du côté de ce que nous, on appelle les sciences humaines, qui s'appelle à ce moment-là soit la philosophie, soit l'histoire, soit l'anthropologie aussi. Hein, déjà, il y a fait le moment où ça se sépare, les différentes disciplines. On est quand même dans une question de quelle éducation pour qui et pourquoi. Et donc, il y a une réflexion qui est quand même extrêmement lourde sur comment on va former les citoyens, qu'est-ce que former un citoyen, et quelle place tiennent les savoirs par rapport à en tout cas, les savoirs savants par rapport aux savoirs juridiques ou par rapport aux savoirs moraux, pour former le citoyen. Donc il y a une réflexion qui est très très poussée là-dessus. Après, il y a une question de nécessité et d'usage. On est en guerre, et donc les sciences qui permettent de faire des progrès dans les armements, dans, je pense à la question des ballons, bien sûr, c'est quelque chose qui est extrêmement... on fait très attention à faire en sorte de pouvoir maintenir ces progrès-là, parce qu'on en a absolument besoin. Voilà. Donc il y a des choses de cet ordre-là. Après, il y a le désir de savoir pour le désir de savoir, mais dans un contexte un peu particulier, avec par exemple l'expédition d'Égypte. Donc effectivement, il y a toutes sortes de moments dans la période révolutionnaire et de questions posées qui mettent en jeu la question de la transmission des savoirs en tant que telle auprès des citoyens et des gens qui doivent décider, et décider par exemple de la stratégie quand on est en guerre. Donc il y a bien effectivement former les citoyens et puis former les élites, ou que les élites soient suffisamment au courant pour prendre les bonnes décisions. Ce qui me paraît aujourd'hui compliqué, c'est qu'on est dans un moment où il y a un écart qui s'est creusé quand même entre les élites ou la technostructure, pour reprendre le vocabulaire de mon collègue, et justement la sphère publique citoyenne en tant qu'elle est supposée être malgré tout le souverain qui vote et qui est supposé avoir une représentation digne de la souveraineté nationale. Et c'est là où il y a quelque chose à réconcilier, et peut-être de considérer qu'il revient aux citoyens de réclamer à ceux qui sont supposés non pas les diriger au sens politique du terme, mais simplement organiser la vie sociale, qu'ils soient un peu plus au travail sur les questions effectivement savantes. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a plein de lieux, par exemple liés au ministère. Il y a des ministères qui commandent des enquêtes savantes sur tel problème de la justice, tel problème religieux, tel problème. Ils n'ont pas de session pour en rendre compte. Et donc on a des travaux qui s'empilent dans les ministères sans que le personnel des ministères ne prenne connaissance de ces travaux. Et donc là, on a vraiment quelque chose qui est absolument délirant, parce que c'est des projets de recherche qui sont budgétés par l'État, qui sont en vue de faire savoir des choses très précises et très savantes à des agents de l'État, et il n'y a aucune session prévue pour que ces agents de l'État puissent s'approprier ces savoirs.
Et merci beaucoup Sophie Vanisch, je pense que le temps nous presse, alors on va vous remercier et puis passer à la suite de l'émission.
Merci
à vous.
Beaucoup.
Merci
beaucoup,
merci, au revoir.
Au revoir.
Vous êtes bien sur Radio Campus Clermont et vous écoutez l'émission Science Alors. Le thème d'aujourd'hui, eh bien, c'est le progrès. Et tout de suite, eh bien, l'énigme mathématique. Bonjour Claire.
Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sort d'un escargot. C'est un escargot qui est coincé au fond d'un puits de 10 mètres de profondeur. Et bah, il aimerait bien en sortir. Alors le jour, il peut monter 3 mètres. Donc il peut avancer de 3 mètres. Par contre, la nuit, bah, il se repose, il glisse et il glisse de 2 mètres. Donc il avance de 3 mètres le jour et il glisse de 2 mètres dans l'autre sens la nuit. Et donc ma question, c'est quand est-ce qu'il va pouvoir sortir de ce puits ? Je vous laisse réfléchir pendant une vingtaine de minutes. N'hésitez pas à nous appeler sur...
On est en contrôle, en fait.
Exactement, c'est ça. N'hésitez pas à nous appeler sur Radio Campus au 04 73 90 52 61. Et donc, vous aurez peut-être la chance de gagner un article dédicacé du professeur Laurent Gerbeau.
Exactement.
Et en anglais, peut-être.
En anglais, peut-être.
Ça, ça dépend de la demande.
Et vous-même, n'hésitez pas à réfléchir, Laurent Gerbeau.
Vous gagnerez votre propre article dédicacé en anglais.
Je ne suis pas sûr que ce soit un enjeu suffisant pour moi.
On passe tout de suite à la suite de cette discussion scientifique. Donc, juste avant la pause musicale, eh bien, Sophie Vanisch évoquait l'idée de l'interface entre les citoyens et la question savante, enfin les questionnements savants. Et puis, en fait, ça amenait naturellement la question des experts et des idées qui y sont véhiculées avec. Est-ce que c'est des questions qui existent aussi en santé publique pour vous ?
Alors, il y a la question des experts, il y a la question de l'expertise et des expertises. Ce que disait Sophie Vanisch et qui est très vrai en santé publique, c'est qu'il y a aussi une accumulation de rapports, une accumulation d'éléments. Il y a une accumulation, parce qu'on est en médecine, donc on aime bien parler de la question de la médecine basée sur des preuves. Et en santé publique, on a aussi des preuves en santé publique de choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Et ce qui est très frappant, c'est de voir que la connaissance, on est dans un domaine où la connaissance a peu d'impact sur les actions qui sont mises en œuvre. Je ne parle pas seulement de la politique, mais simplement sur l'organisation, la façon dont sont distribués des soins, dont est assuré l'accès aux soins, ce genre d'éléments-là. Après, il y a la question des experts. Elle est plus compliquée, je dirais, que la question du savoir et de l'expertise. La question du savoir et de l'expertise, en tout cas dans le domaine de la santé, est quelque chose qui est important, qui tente d'être résolu avec un certain nombre d'outils, un certain nombre de techniques, un certain nombre de collaborations scientifiques. Le problème des experts, en particulier en France, est la capacité à générer des experts autoproclamés, qu'à un moment donné, on déclare experts d'eux, et dont on ne sait pas très bien de quoi ils sont experts. Pour vous donner un exemple très concret, c'est un peu ce qui s'est passé sur l'histoire du climat, avec les climato-sceptiques, qui n'étaient absolument pas experts du climat, qui n'étaient pas experts de leur domaine, qui étaient capables d'interpréter un article à l'envers des tableaux de chiffres qui étaient produits, mais que l'on maintenait dans le débat comme étant experts, parce que c'était des gens qui apparaissaient importants. Voilà, on a le même problème. Il y a une partie de la télémédecine, c'est des médecins qui parlent à la télé, c'est pas uniquement de la médecine à distance. Voilà. Et le problème que l'on a, c'est la façon dont sont désignés des experts, à partir de quel champ de domaine de compétences. Moi, il y a des domaines de compétences en santé où je ne suis pas expert et je ne m'avancerai pas dessus.
Alors justement, donc on parle d'expertise en rigolant. Enfin, du moins, si on retourne le propos, on peut dire que vous êtes expert en éthique. Mais justement, ce qu'on peut vérifier si on lit vos publications, c'est qu'effectivement, c'est des questions qui vous préoccupent d'un point de vue scientifique. Et alors, ma question va dans ce sens. Aujourd'hui, on parle de progrès dans cette émission. Et est-ce que, de votre point de vue, ces questions d'éthique sont en quelque sorte une barrière au progrès scientifique ?
Alors d'abord, je ne suis pas un expert de l'éthique. J'utilise beaucoup l'éthique et d'accord. J'ai besoin énormément de l'éthique dans mon métier pour arriver à savoir quel est le sens que je dois donner aux travaux de recherche que je mène, dans quel cadre je les mets, comment je les priorise. Mais je ne vais sûrement pas me revendiquer comme un expert de l'éthique qui m'apparaît comme un domaine beaucoup plus complexe que ce que je peux embrasser par mes propres connaissances.
C'est une réponse intéressante.
Oui, mais c'est une réponse importante. C'est-à-dire que j'abordais la question de l'expertise. L'un des reproches que l'on peut faire aux gens qui prennent des paroles d'expertise est qu'ils ne délimitent pas le champ
dans lequel ils parlent, à partir duquel ils parlent, et quel est le point de vue qu'ils ont. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. J'appartiens à un certain nombre de comités d'experts scientifiques, hein, comme tout le monde, je veux dire, c'est pas quelque chose de particulier à ma personnalité. Ce qui est intéressant, c'est lorsque nous avons des scientifiques de domaines différents, qui ont chacun une expertise différente, pour parler d'un même sujet et débattre autour d'un même sujet. Et sachant que chacun est dans la situation de respecter la parole scientifique de l'autre, mais de ne pas nécessairement être d'accord et d'avoir d'autres éléments à apporter. C'est-à-dire qu'on est à la fois expert et citoyen dans ce genre d'éléments-là. Donc c'est pour ça que je disais sur l'éthique, en fait, je ne suis pas un expert de l'éthique, je veux dire, surtout pas. Mais pour la question du progrès et la question des limites de l'éthique au progrès, en fait, moi, j'aurais tendance un peu à renverser la proposition. C'est-à-dire, est-ce qu'il est éthique de ne pas progresser? Est-ce qu'il serait éthique de dire la société, on l'arrête, on la fixe telle qu'elle est aujourd'hui, ou la société, on la fait régresser par rapport au niveau de savoir? Là, je suis dans mon domaine de santé publique, bien sûr, par rapport au niveau de savoir qui était celui, par exemple, de la Révolution française. Retournons à ce qu'était la connaissance de santé publique, le savoir de santé publique à ce moment-là.
C'est vrai, bien sûr, mais par exemple, si on prend la question de la carte vitale et puis toutes les questions autour des données, en fait, l'idée du progrès qui est un outil peuvent parfois aller à l'encontre de ce qu'on voudrait être, disons, un comportement éthique.
Le progrès social, oui. Enfin, si tu continues peut-être avec cet exemple de la carte vitale...
L'idée, c'est de dire qu'il y a ces données qui sont embarquées sur la puce, et peut-être que la facilité d'accès qu'on a à ces données pose des problèmes.
Mais parce que, d'abord, c'est le concept de progrès à ce moment-là qu'il faut interroger. Est-ce que le contrôle social accru des individus est un progrès ? Clairement, sur le plan des libertés individuelles, non. On pourrait discuter, parce que ça c'est un point important, de l'éthique qui fonde la question de la prévention. Qu'est-ce qui fait qu'on met en œuvre des programmes de prévention? Ça c'est une interrogation importante. Mais juste pour dire, quand Ivan Illich écrit « Némésis médicale », ça a été analysé comme une attaque du progrès médical, mais du progrès médical tel qu'il avait lieu. Simplement, Ivan Illich met en exergue que la médecine débordant dans le champ du social et dans le champ de l'économique a des conséquences qu'elle n'a pas elle-même anticipées ou qu'elle ne veut pas voir. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une régression, c'est-à-dire qu'on refuse de voir ce qui n'était pas vu, un peu on éclaire l'obscurité, ou est-ce qu'au contraire, Ivan Illich ne traduit pas lui-même un progrès, c'est-à-dire qu'il permet de voir et de concevoir des choses qu'on ne voyait pas avant? La vision de la carte vitale, est-ce que c'est une vision du progrès ou est-ce que c'est une vision de l'assuré social des années 60 ou 70? Voilà le type de question qu'il faut se poser. Est-ce que ce que l'on nous vend comme progrès, le dossier médical personnalisé, dossier médical du patient, dossier médical unique, peu importe, est-ce que là, il y a progrès ou est-ce que... Au contraire, il y a la tentative de finir d'appliquer une idée qui est effectivement une idée qui date des années 70. Nous sommes actuellement en 2010, c'est-à-dire qu'on est 40 ans après le début des années 70. Est-ce que l'on peut raisonner en 2010 le progrès comme on le raisonnait en 1970? Et je vais juste reprendre une chose qui a été dite dans l'introduction. Est-ce que le concept de décroissance est un concept de régression ou est-ce que c'est un concept de progrès différent? Et c'est là où je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure. Le problème aujourd'hui est de faire les scénarios des possibles et des souhaitables. La carte vitale 2 avec la photo, peut-être avec la puce génétique de l'individu, pour être sûr que c'est lui qui se fait prélever, qui sera d'un coût absolument énorme pour un problème de fraude qui ne représente pas 0,5% du coût total des dépenses de santé. Est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est tout simplement une façon de créer un domaine économique actif qui permet de faire payer quelque chose dont on se serait passé tout à fait sans le moindre problème.
D'où l'importance pour les citoyens de, comme on le disait, en fait, de se saisir de ces questions, puisque là, c'est quand même des questions qui intéressent tout le monde et qui mettent en jeu notre conception des libertés individuelles, de ce que c'est que la sécurité, etc.
Mais non seulement les citoyens doivent s'en saisir, mais s'ils ne s'en saisissent pas, d'autres s'en saisiront pour eux et sur eux. Je vais vous prendre un deuxième exemple, la génétique. Est-ce qu'il est réellement fondamental et indispensable que tout individu à la naissance sache quels sont les risques génétiques qu'il a sur lui ? Autrement dit, si l'on prend les principaux problèmes de santé que l'on a en France, ils sont assez simples. Ça se résume à peu près par trois grands problèmes de santé, en termes de mortalité prématurée. Donc vous voyez que déjà, j'introduis une notion qui est que ce qui est embêtant, c'est pas de mourir, c'est de mourir jeune. Donc on va se dire, finalement, c'est une bonne légitimité. Des gens qui meurent jeunes, ça fait toujours désordre. Regardez cette idée un peu basique. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a le tabac, on a l'alcool et on a les suicides. Si à la naissance, je vous dis, vous avez plus de risques qu'un autre si vous fumez de devenir dépendant, et si vous fumez de faire un cancer du poumon ou un cancer du rein ou un infarctus du myocarde ou peu importe, est-ce que c'est réellement déterminant dans votre choix de vie sur le fait de fumer ou non ? Qu'est-ce qui fait que les gens fument ? C'est parce qu'il y a aussi l'industrie du tabac qui veut que les gens fument. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà, alors actuellement, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez vous faire commander des tests génétiques, vous pouvez vérifier que vos parents sont vos parents, que votre sœur est votre sœur, votre frère est votre frère, vous vérifiez des tonnes de choses. Tout cela se fait sans le moindre contrôle, avec très peu de critères de validité scientifique, mais cela existe. Ça, ce sont des interrogations qui sont fortes. Comment se prépare-t-on à cela ? Comment le discute-t-on ? Comment le rationalise-t-on, puisque les choses existent ?
Merci beaucoup. Malheureusement, ici encore, le temps nous manque pour continuer sur ces questions passionnantes. Donc, on aura compris que la question du progrès, eh bien, ça dépend de la manière dont on la comprend. Alors, pour clôturer cette discussion, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup et on va tout de suite passer à la question, à la super question.
Science alors ! Éprouvette et velours côtelé.
Alors, pour la super question, en fait... Ces derniers temps, je me suis posé une question. Il faisait très froid dans mon appartement. Il faut dire que j'habite plein nord. Et donc, je me suis demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas changer l'inclinaison de l'axe de la Terre, tout simplement ? Comme ça, je me retrouverais plein sud. Et puis, en même temps, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui habitent plein sud et que certains restent toujours plein nord à ne pas avoir de soleil dans leur maison. Alors, pour changer l'inclinaison de l'axe de la Terre, ce n'était pas une mince affaire. Je me suis dit que peut-être que mon seul espoir... c'était de demander gentiment à Superman de m'aider. Pour cela, je me suis rendue rue Saint-Esprit, au magasin Esprit BD, pour rencontrer deux personnes qui m'ont aidée dans ma quête. Et au passage, j'ai aussi pris avec moi le professeur Oscar Olibrius, qui m'a aidée à y voir plus clair. On écoute tout de suite.
Mon Superman n'a pas changé l'axe de rotation de la Terre, il s'est contenté de la faire tourner très vite dans le sens inverse de sa rotation habituelle pour remonter dans le temps. Sauver Loïs qui a été malheureusement assassinée par l'exécuteur.
Donc ça, je crois pas que ça va m'aider à me retrouver au plein sud, si ?
Mais si, bien sûr, puisque d'après mes connaissances en géologie, géographie et toutes ces sciences très intéressantes par ailleurs, mais moins que les mathématiques, il y a ce qui s'est passé, ce qui s'appelle la dérive des continents. Donc, si vous remontez suffisamment loin en arrière, dans le temps, vous pourrez vous retrouver à un moment où l'Europe sera orientée de telle manière par rapport au Soleil et à la Lune, qui intervient également, de manière à ce que votre immeuble soit orienté plein sud.
Autant aller sur Mars.
Aller sur Mars.
Mais alors, il y a moyen pour toi de te rendre directement sur Mars ? Grâce au livre de Pierre Vazem qui s'appelle Mars aller-retour, il a trouvé une cabane dans les bois à côté de chez lui qui lui a permis de faire un voyage aller-retour plein sud sur Mars.
La Chine excelle dans le textile, la Thaïlande dans les grains de riz, le Japon fait des automobiles et les US du R&B. La Suisse attire les comptes en banque, les Anglais ont un humour exquis, le Nicaragua produit la cocaïne et la revend au meilleur prix. La France. Et le ciel fait péter la pluie. Quant à Dieu, assis sur l'horizon, il nous envoie des messies. La lune produit savants disent que dans quelques siècles, il y aura sur Terre plus de forêts. Je vis déjà dans vos pensées inquiètes. Sans arbres, plus de papier. Mais la France, prévoyant la disette, rassurez-vous, ne perdra pas de prix. Photocopiant sur un air de fête tous les arbres du pays, chêne, cerisier et hêtre, pour faire face à la
N'ayez pas peur, vous êtes toujours sur Radio Campus Clermont et on vient d'écouter Camille au milieu d'une émission Science Alors consacrée au progrès. Et alors, au cours de l'émission, Claire nous avait posé une question, une énigme mathématique, et maintenant c'est la réponse.
Alors, avant de vous donner la réponse à la question, je rappelle quelle était la question. Donc, nous avions un escargot au fond d'un puits de 10 mètres de profondeur qui cherchait à en sortir. Il pouvait remonter de 3 mètres le jour et la nuit, il glissait et descendait de 2 mètres. Alors, le piège était de répondre 10 jours, puisque on peut imaginer que comme il monte de 3 mètres et descend de 2 mètres, au final, il monte de 1 mètre par jour. Donc, au bout du 7e jour, il est monté de 7 mètres. Sauf qu'une nuit passe, donc il est redescendu à 7 mètres. Et là, le lendemain, le 8e jour, il monte de 3 mètres. Donc, il arrive en haut du puits et il ne va pas attendre une nuit de redescendre de 2 mètres. Il va sortir tout de suite. Donc, la bonne réponse était 8 jours. L'escargot va sortir au bout de 10 jours de ce puits de 10 mètres de profondeur.
Alors Laurent, vous le saviez ? Vous l'aviez deviné par modestie, vous n'avez pas voulu le dire à l'antenne, mais vous le saviez.
Pour ne pas gagner votre propre article, probablement.
Non, parce que j'ai considéré que je n'avais pas à répondre à ce concours et j'étais concentré sur ce que je devais vous dire.
Voilà, c'est encore la question d'éthique qui a guidé votre choix.
Voilà, donc nous retrouvons tout de suite Jean-Marie pour l'agenda local.
Tout à fait, je vais faire un petit balayage de l'actualité scientifique clermontoise du mois à venir. Alors si vous vous intéressez aux questions de l'éthique justement, donc demain mardi, c'est ça, le 23 octobre à 20h, eh bien il y aura aux ambiances un documentaire projeté suivi d'un débat, Tous cobayes, et ce sera animé par Olivier Perrault. Un petit peu plus tard, le lendemain, mercredi 24 octobre à 18h30 à la Maison des Sciences de l'Homme, Quelle école en 2025 par Annette Barrère dans le cadre d'un cycle de conférences intitulé Façon de penser l'avenir. Alors justement, ça touche au progrès, la question d'aujourd'hui. On continue donc cet agenda. Si vous vous intéressez à la question d'éthique toujours, eh bien, je vous invite à aller assister à une conférence de la Société d'Histoire Naturelle d'Auvergne ce mardi 30 octobre à 20h30 à la salle Georges Conchon, une conférence qui traitera de la question pratique d'élevage et relations homme-animal, ce sera par Xavier Boivin. On continue encore sur un autre sujet. Ce jeudi 8 novembre, une conférence intitulée AAA Audit Annulation Autre Politique, animée par Damien Maillet, qui est porte-parole du Comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde. Ce sera donc dans l'amphi 2 de l'UFR Langue et c'est organisé par les Amis du Temps des Cerises. Je poursuis ce calendrier en vous indiquant que le 9 novembre à 16h, il y aura une conférence de Julie Dassault sur les partitions graphiques, comment ça marche. Ce sera à la médiathèque de Jaude dans le cadre du festival Musique démesurée et je vous invite à aller assister à cette conférence puisque ce sera le thème, l'écriture dans la science, le thème de notre prochaine émission. Si je finis cet agenda, eh bien ce sera avec une conférence qui sera organisée le 21 novembre 2012 à 15h30 dans le cadre des Mercredis de la Science à l'amphi recherche du pôle physique. Et la conférence aura pour titre Astronomie et géométrie des Grecs à Galilée. Voilà donc pour l'agenda et maintenant nous touchons à la fin de cette deuxième émission Science Alors qui avait pour thème le progrès. La programmation musicale d'aujourd'hui, nous avons pu écouter Camille avec La France et Goran Belovic avec Kocek. À la réalisation, nous avions Laurent, merci Laurent. Les invités étaient donc Pierre Cornu, que vous avez pu entendre enregistrer, Sophie Vanish, qui était par téléphone, et puis Laurent Gerbeau, que je remercie encore, qui est venu sur le plateau. L'émission d'aujourd'hui était animée par Claire, Cécile et JM. Je vous rappelle donc que la rediffusion sera le lundi 5 novembre à 19h. Et puis, eh bien, si vous avez été heureux d'écouter cette émission, retrouvez-nous le 19 novembre à 19h pour cette fois-ci une émission consacrée à l'écriture. L'écriture et la science. Si vous voulez nous retrouver, vous pouvez également retrouver le podcast de l'émission à l'adresse http://sciencealors.fr. Et restez sur Radio Campus, puisque l'émission à suivre, c'est Génération Manga.
Science Alors !
Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, New Jersey.
Encore impensable il y a quelques décennies, la navigation dans l'espace extraterrestre est à l'ordre du jour.
It is intelligent with its the ability to learn from experience, to plan ahead.
La question se pose, quelle sera la machine parlante de l'avenir?
Éprouvette et velours côtelé.